Trace de lumière, Christian Malaplate.
Radio FM plus 91 FM Montpellier présente Trace de lumière, une émission réalisée par Christian Malaplate avec Yannal Technique, avec l'aimable participation de Viviane Nau. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à Louis Brocquier, le poète des mers du Sud, et nous écouterons L'homme et la mer de Charles Baudelaire, chanté par Patrick Hamel.
Homme libre toujours, tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame. Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image, tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes. Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Aux lutteurs éternels, aux frères implacables,
Louis Brocquier est né en 1900 à Marseille, il est mort en 1976 à Saint-Mittre-les-Remparts. Poète, agent des messageries maritimes, peintre, auteur d'une dizaine de recueils, plus connu du registre des affaires maritimes que des manuels littéraires. Une œuvre pourtant moins trafiquée que celle de certains écrivains voyageurs, officiels et académiques. Une œuvre que l'on peut lire à fond de cale ou au bar des premières, à bord ou à quai. Et depuis Baudelaire, nous savons qu'il y a une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique pour celui qui n'a plus ni curiosité ni ambition à contempler, couché dans le belvédère ou accoudé sur le môle, tous ces mouvements de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, de ceux qui ont encore la force de vouloir, le désir de voyager ou de s'enrichir. Louis Brocquier est le poète du mouvement des navires et des décors des ports, un homme des messageries maritimes. Longtemps, les marins des messageries maritimes conservèrent des rites de la coloniale. Au départ de Marseille, les navires desservaient l'Afrique, l'Asie, l'Inde. Louis Brocquier n'est pas un écrivain de la nostalgie, mais du temps maritime, moderne, actif et pourtant bercé. Il y a des quais et au bout une famille. Louis Brocquier écrira « Dès que j'ai su marcher, on m'a mené à chaque arrivée et à chaque départ de mon oncle à la Joliette. Les navires étaient des paquebots d'un assez faible tonnage, construits pour la course. Ils transportaient le courrier, ils étaient amarrés perpendiculairement au quai, le long des mâchonnes qui oscillaient lourdement sous les pas. Jamais je n'ai oublié l'odeur des coursives où se mélangeaient celles de la peinture fraîche, sel poivré qui venait des cales et sel opaque de l'opium que fumaient dans leur poste au-dessus de la ligne de flottaison les boys chinois. Louis Brocquier, lecteur de Rimbaud, ne choisira pas la fracture irrémédiable. Il veut concilier le pays natal qui fera de lui un écrivain et la connaissance de l'étranger qui lui servira de motif. Il découvrira Blessandra, Paul Morand, Coran, Kipling, mais restera naturellement attaché à Émile Sicard, l'auteur du célèbre poème « Le vieux port », à Frédéric Mistral et au Cahier du Sud. Il y a la genèse, l'épopée, la retraite. La vie est une aventure qui part pour l'éternité et je compte les encablures qui traînent ma destinée. Marseille vit le globe, gobe toutes les marchandises et tous les peuples. Brocquier se coltine à la matière, au coton d'Égypte, aux cacahuètes de Pondichéry, au café de Moka, des odeurs, des effluves, des promesses, l'essence de la littérature. Marseille, bourse des échanges et des odeurs, du trafic et de la bourlingue, poète au long cours. Ces personnages sont des marins, et tous les mers, tous les pays convergent vers Marseille, qu'elle mène, s'ouvre vers le monde. La Méditerranée, mer fermée et circulaire, ne l'empêche pas de se répandre dans des flux croisés vers l'au-delà. Le poème liminaire du premier recueil Louis Brocquier et au-delà de Suez prouve cet élan.
Et l'au-delà de Suez. Et nous leur parlerons, nous, de la vieille Europe, aux hommes des pays où nous aborderons, aux sages d'Orient qui voient couler les fleuves. Et ce sera comme un récit de petits-fils qui reviennent, enfin au berceau de leur âge, par le chemin des invasions, les croisements des races amêlées au creux des grandes routes et les ports plaies ouvertes au flanc des continents. Nous, dont le sang brûlant ne connaît que sa force, nous les hommes des ports, nous qui avons compté les visages des races, nous qui tournons les yeux vers d'autres ports, dont les noms sont beaux d'aventure, chauds et mystérieux, peut-être cherchons-nous à travers les matures à retrouver nos dieux, qu'importe. Nous dirons aux races immuables ce que nous avons fait, nous dirons la montée des villes, la puissance assise au bord de la mer. Nous dirons qu'en 10 jours, de Londres ou de Marseille, on va jusqu'à Bagdad, qu'on parle à haute voix par-dessus l'Atlantique et que New York répond. Nous dirons que la mer entoure de ses algues les câbles sous-marins et qu'on a mis des noms de villes sur le sable jusqu'au centre africain. Et chacun vantera son port parmi les villes. Tu parleras d'Anvers et toi de Gênes, toi de Liverpool et moi je leur parlerai de Marseille. Ils nous demanderont alors si le bonheur est parmi nos conquêtes, les sages méditant les préceptes antiques qui ne sont pas partis. Ceci se passera dans un bazar de l'Inde ou dans un café de Stamboul. Pourquoi, nous diront-ils, cherchez, la vie est brève et Allah seul est grand. Nous ne répondrons pas, car nous, nous ne parlons plus la même langue. Adieu amis, vieillards adieu, notre vie est celle du monde.
نبعيد نبكي بيدي وعلى كلمة آه
يا حسين
يا حسين يا حسين يا حسين وعلى كلمة آه
يا حسين
وح 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 وح
يا حسين
وقولوا معايا آه
يا حسين
وح 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 وح
يا حسين
وعلى كلمة آه
يا حسين
يا حسين يا حسين يا
حسين يا حسين يا حسين
فريد يا فريد يا حسين من لحم ودمي وح 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 على كلمة آه وح 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 وقولوا معي آه
Louis Brocquier montrera la noblesse et la beauté du commerce, des gestes, des actes, une parole donnée, un protocole, autant de marques d'une renaissance après la guerre qui broya l'idée de l'humanisme. L'écriture au service des douanes conduira Brocquier au journalisme. Il travaillera très peu de temps au Radical à Marseille avant de connaître le grand voyage. Mais une cale sèche l'attend. La mort de son père en 1921 et son service militaire à Trèves en Allemagne occupée. Drôle d'exotisme militaire que d'envoyer des sudistes vers les brumes de la Rhône. Louis Brocquier découvre pour la première fois l'exil, le nomadisme. Affine sa paresse et son désenchantement. Il suit tout de même les cours de l'école de commerce à Mayence. Il proclame aussi dans ses lettres son horreur de la brume, du gris et des fleuves. Il écrit aussi « Je ne sais où s'arrête mon pays, Je sais seulement qu'il descend vers l'équateur et qu'il ne remonte pas vers le nord. Je suis du pays des navires, sur l'horizon marin, des fruits d'or et odorants, des femmes brunes et qui se baignent dans le soleil. Il ne manquera pas l'accélération historique des années 1920. Sa vie, son œuvre, son métier, ses amours, ses amitiés choisies, sans le même cap. Il n'y a pas de déchirement. Il va construire le journal de bord de ce navire qu'est sa vie. À la recherche d'une unité primitive, tout s'enferme dans la même malle. Il y a une morale, du style, de l'inspiration chez Brocquier, des accords liés à l'amitié, à la mélancolie. En 1923, il passe sa licence de droit, puis le concours du commissariat de la marine marchande et entre le 10 mars 1924 en messagerie maritime. C'est l'époque où il se lie avec l'équipe des Cahiers du Sud, tout d'abord baptisée Fortunio, la revue de Jean Ballard, dont le premier numéro paraît le 10 février 1914, marquera pendant plus de demi-siècle la vie littéraire marseillaise. Elle compte parmi ses collaborateurs Marcel Pagnol. Les Cahiers du Sud ne se cantonneront pas à la littérature provençale et s'ouvriront à partir de 1926 au surréalisme. Voici un extrait d'Itinéraire ou la torpeur.
L'itinéraire ou la torpeur de midi. Je veux orner les murs de ces cartes marines sur lesquelles les capitaines des voiliers se guidaient jadis vers l'Amérique latine et refaire avec eux les longues traversées, toutes baignées encore par les retours magiques et par l'enchantement des rêves familiers. En passant sur l'abîme clair de l'Atlantique, nous avons vu fleurir des bouquets de coraux et monter le soleil énorme des tropiques. La frégate massive est telle sur les eaux que celle de Colomb lors de la découverte. Nous mouillons nos mains étonnées au courant chaud et nous crions de joie devant les îles vertes des nouveaux archipels, car cette floraison au vieux monde ébloui sera par nous offerte. Nous avons pénétré avec la peur au front dans l'empire du sud où la mer des Sargasses roule la chevelure trouble de grands fonds. Nous étions un fétu perdu dans ces espaces à la merci de Dieu, des récifs et des vents, où arrêté, voile molle, dans la bonasse. La longue vue du capitaine, le sextant, la boussole têtue, le compas et la sonde ont mesuré pour moi la vitesse et le temps. Et nous suivions du doigt, avec la map-monde, la route de nos voiles rousses vers les ports, où nous serons aimés par des créoles blondes. Le rhum des plantations brûlantes où l'on dort nous versera le souvenir bleu des Antilles, si douce à la vie que l'on oublie la mort. Je rêve. Je suis seul, par-dessus les flottilles. Le soleil méridien jette son filet d'or. L'itinéraire est fait. J'ai vu la pacotille consignée quelque part sur un journal de bord.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, les oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer. qu'on va danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur, voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés, voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. C'est mon cœur pour la vie.
Louis Brocquier embarque à bord des bateaux le 3 février 1925 en tant qu'élève, commissaire, et dans le mariage la même année. Il découvre Alexandrie, Port Saïd, Beyrouth et Alger. L'homme passe sa vie à lancer des amarres. Puis, quand il est saisi dans le calme du port, pour peu qu'à l'horizon une fumée l'appelle, il regrette à nouveau la liberté des mers. Le navire est le refuge du nomade, son île, le mouvement perpétuel dans la lenteur, l'horizon est le huis clos. Je reviendrai m'échouer dans le cœur des navires. À son retour, il épouse Georgette Gautier, qu'il connaît depuis 1923. Et l'année suivante, il publie toujours à la Société de la Revue Le Feu, son deuxième recueil de poésie, Le Bar d'Escale. Poème de la tendresse et de l'amertume, il s'attache plus aux personnages des ports, le pilote, le docker, le marin, qu'au décor. Mais son récent mariage lui montre la difficulté à concilier vie de couple et de paquebot. Dans le monde maritime, difficulté à concilier vie de couple et de paquebot. Les douleurs sont privées et les déchirements reclus au fond de cale. Le 7 mars 1926, Brocquier renonce à la carrière de commissaire de bord, démissionne et passe quelques jours après le concours d'admission au cadre des agences extérieures des messageries maritimes. Reçu, il rêve d'être nommé aux antidotes et aux antipodes. Nommé tout d'abord commis, il découvre le monde des agences, qui n'est pas tout à fait celui des navires. Les agences représentaient les intérêts de la compagnie et développaient les marchés de leur zone géographique. Un agent est comparable à un consul commerçant. Brocquier sera un spectateur détaché, penché à sa fenêtre, regardant les ports chaque matin avec un bonheur renouvelé. Les rites maritimes lui permettront d'écrire une œuvre cohérente, parvenant très tôt à son équilibre, tressé au plus profond de l'intimité.
Où sont les soirs du port si chargés de présence, quand de chaque voilier descendait un ami? La vie s'en est allée, son geste de silence a couvert la rumeur des places de la nuit. Je ne puis porter seul le tourment de ces fêtes et tenir en mon cœur assez de volupté pour satisfaire au bleu des ombres inquiètes, ses pontons gisants sur des lumières noyées. Dans le soir émouvant, dansent les mappes-mondes. Les bars sont l'archipel d'un obscur océan où nous buvons, choquant les verres à la ronde, le regret qui nous vient des premiers portulans. Ce monde reconnu, aux nulles découvertes, ne balance l'orgueil au matin des départs. Ne nous laissera-t-il dans la ville déserte qu'une image d'exil dans un bocal d'espoir? Maintenant que je tiens une âpre certitude, sûre de ne retrouver que mon ancien désir, je ne sais où tourner la vieille inquiétude qui lançait les vaisseaux sur les routes d'Ophir. Seigneur, vous n'êtes plus dans ce corps en poussière, dans ce grand mort couché sur tous les continents. Verrai-je pas monter bientôt votre lumière à l'horizon des mers dans un soir aveuglant? Entendrai-je crier à l'avant du navire l'ordre du capitaine et l'appel du pilote? Et vous chargerez-vous alors de reconduire au port prédestiné la périssable flotte? Nous sommes aujourd'hui sans ombre et sans mystère, dans une pauvreté que l'esprit abandonne. Rendez-nous le péché et le goût de la terre qui fait que notre corps s'émeut, tremble et se donne. Les lanternes du port sont dans l'eau, parallèles, un déchirant plaisir à jaillir de l'absence, mais la nuit vient, comme une maîtresse infidèle, et ramène en son lit les terreurs de l'enfance.
L'œuvre de Brouquier, c'est celle d'un homme et de son métier, le pittoresque et l'exotisme, l'indifférent. Il préfère le contact et la connaissance profonde des choses. Il aime les dialogues murmurés, les correspondances. Assiné, Brouquier écrira Pythéas, poème dramatique publié en 1931 au Cahier du Sud, et dont le titre est un hommage au navigateur marseillais du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui déterminera notamment la latitude de Marseille. Ce texte où l'amour apparaît comme l'absolu indispensable à l'aventure et à l'incertitude sera mis en scène en mars 1935 par une troupe de théâtre dirigée par un camarade de régiment, Georges Batty. De ce séjour en Australie, Il tirera l'un de ses plus beaux recueils, « Eau douce pour navire », un livre qui réconcilie l'Atlantique, le Pacifique, la Méditerranée, un livre panisphère de départ, de voyage et d'arrivée. Il est l'un des écrivains français qui comprendra le plus subtilement la vie au long cours et le métier de marin. L'une des dernières vocations aristocratiques du monde moderne, dans l'un des plus beaux textes de notre littérature sur la solitude du commandant, naître après Dieu, maître plutôt, après Dieu de son navire, il saura décrire l'atmosphère de la passerelle, les veilles doublées, les jours de brume, la beauté et l'âpreté de la navigation au sectant. Le commandant de navire de commerce est le pacha, le vieux, même s'il n'a pas 40 ans, il est à la fois le patron, le médecin, le confesseur. Un monde à part, solitaire et nomade, il ne prétend pas maîtriser la mer, il en connaît trop la violence. Nuit et jour, le bateau avance. Marseille reste cependant le port d'attache par excellence. Dans la correspondance comme dans les poèmes de Broquier, il est omniprésent et la découverte de l'étranger permet d'approfondir sur un registre épique et mélancolique l'intimité avec la ville natale, les bars du vieux port, carrefour de toutes les cultures, de toutes les races et de tous les métiers, sont le refuge de la fraternité et le kaléidoscope d'un monde en transit. Et les verres d'alcool, des longues vues plongées dans le cœur humain, cale sèche.
Cale sèche des voyageurs et des navires, place d'échange, vers où tendent les produits bruts, marché sud, où l'hémisphère s'approvisionne, l'espoir des planteurs est aux mains de tes courtiers. Je les vois te parler seuls dans leur bureau vide. Ils te répètent les raisons de votre orgueil, le nombre des entrées et des sorties, le chiffre si émouvant du tonnage manipulé. Je vois des files de dockers franchir les grilles, la foule de tes quais qui regagne ton corps. Je vois luire les barres et dans ta forme obscure s'accroître en secret le volume du trafic. Quel mot serait plus doux? Quelle autre promesse espères-tu de ces hommes que tu nourris? Que cela entendu déjà dans ta jeunesse et répété depuis 2600 ans. Satisfait de mener une vie quotidienne qui joue sur plusieurs mers et les cinq continents, ils courbent leurs faiblesses et essaient leurs forces au nom de Dieu des choses telles qu'elles sont. Qu'ils n'entretiennent pas pour la chose impossible, inguérissable, un grand regret silencieux. Qui peut en témoigner, qui t'a connu Marseille, entrepôt d'apparaux et de rêves marins? Ô mer assez puissante et sûre du vieux charme, pour nous laisser partir, certaine du retour. Un homme te revient qui a vu bien des rades, un enfant te revient pour dire son amour. Un voyageur retourne au quai de son enfance et se souvient des ports lointains qui l'ont tenté. Il est naïvement fier de sa résistance, il est tendrement fier de sa fidélité. Empli d'une clameur qu'avec peine il maîtrise, écoute l'appel dur qu'il veut te répéter. Ville, je te choisis entre toutes les villes qui m'a donné le monde et qui m'en a sauvé.
Louis et Georges Brocquier rentrent à Marseille en attente d'une nouvelle affectation. Louis Brocquier s'occupe de son œuvre. Il publie des poèmes dans la revue Europe, dans la Nouvelle Revue Française, et grâce à son ami Audicio, Benjamin Crémieux fait éditer par Gallimard Eau douce pour navire. Prochain port d'attache, Nouméa, l'une des plus belles rades du monde. Je connais des îles lointaines, je connais des rades foraines et des passes non balisées, au fond desquelles l'on découvre, dans la pureté matinale, que va massacrer le soleil. Le même drapeau qu'on hisse à la façade des mairies sur les plus belles places de France. Il est informé de l'actualité littéraire comme un insulaire peut l'être, de façon lointaine et incertaine. Il connaîtra aussi à Nouméa les cyclones et les navires qui, dans la tempête, rompent leur amarre et se transforment en bateaux ivres dans la nuit. Au début de l'année 1934, retour à Marseille, puis promotion de l'autre côté de la Méditerranée à l'agence d'Alexandrie. Il éditera une plaquette, Le Pilote, au cahier de Barbarie, à Tunis, dirigé par Armand Guibert, le traducteur de Pessoa, l'un des meilleurs agents de notre littérature en Afrique du Nord. Il restera toujours l'homme du bonheur privé, tout en s'ouvrant au monde, à son frémissement. Il s'écartera des mouvements de foule, des mots d'ordre, des marches forcées et collectives, au profit d'un égoïsme mesuré qui n'insulte personne. Les Brocquier apprennent l'arabe à Alexandrie. Le poète fait aussi des photographies de Port Saïd, d'Alexandrie, du Caire. Il rencontre Francis Carco, Port Saïd.
Des hommes ont aimé des villes qu'ils portaient partout avec eux. Comme moi, je porte Marseille, invisible, à même la peau. Des villes font ce qu'elles peuvent pour retenir, pour arrêter. Des villes ont des charmes lâches, des villes sont des lits d'amour. Mais toi, masqué de sable à ce tournant des routes, ventricule gonflé par le sang du trafic, assommant la tardée d'un coup de ton soleil. Ô Port Saïd, tu le jettes la nuit au courant du canal. Où est ta tête? Où est ton cœur, Port Saïd, peuplé de pilotes, ville nue et pourtant secrète, aux façades inanimées? Des paquebots pleins d'assurance et bondés de passagers, habitués d'une hémisphère, venus jusqu'au canal que tu commandes. Ô Port Saïd, s'arrête orgueilleux de quelques pavillons. Et toi, la rouge, la silencieuse, la désertique, dans ton sable, dans ton silence et ton désert, vertical sous un soleil épouvantable. Ô Port Saïd, tu les prends un à un comme ils viennent vers toi. Tu les fais se ranger l'un derrière l'autre, sans qu'ils osent prétendre à quelque préséance, et passant au travers du jour et de la nuit. Ô Port Saïd, tu les fais basculer sur l'autre bord du monde.
Au milieu d'un nuage, au-dessus de la mer, un visage de femme regarde l'étendue et les oiseaux poissons fréquentant ces parages portent l'écume aux nues. Je connais cette femme, où l'ai-je déjà vue? Bois. Dans un lointain sans terre, ce sont bêtes sans chair qui ne connaissent pas cette dame étrangère et donnent de la voix avec leur âme austère. Elle a des yeux si noirs, je les cherche en moi.
Nova Maria.
silence tout à coup. Visage dans les mains vont les sphères célestes qui retiennent leur souffle pour que ce chant modeste se fraye comme il faut son chemin jusqu'en haut. Et voici qu'elle a pris sa tête entre ses mains. Je connais cette femme. Où l'ai-je déjà vue? Elle a des yeux si noirs que je les cherche en moi. Et voici qu'elle a pris sa tête entre ses mains.
Les Brocchier, au printemps 1934, c'est le retour en France après 4 années en Égypte et 2 mois d'intérim à l'agence de Djibouti. La guerre éclate quelques semaines après. Mobilisé comme caporal du génie, il est envoyé à Toul. Il a l'impression de payer la rançon du bonheur passé. Il se raccroche à ses souvenirs, se dédouble. Démobilisé après l'armistice, Brocchier rentre à Marseille, amer, traumatisé, désespérant de la civilisation et du genre humain. Mais rien n'interrompt le destin de l'exilé, surtout pas la guerre. Et ce n'est pas l'occupation allemande qu'il va subir, mais l'occupation japonaise en Chine, à Shanghai. On retrouve chez Brocchier ses eaux lourdes, mais le port ne recèle plus tout à fait la même atmosphère. La Seconde Guerre mondiale rendra ses fameux écrits à Shanghai plus noirs, plus pessimistes, éloignés des siens, sans nouvelles. Il connaît un exil pauvre, presque sans argent, d'où une poésie plus épurée, plus solitaire. Il est souvent accablé à l'écoute du malheur du monde. Ses textes ne sont jamais pour autant des plaintes douloureuses de cornes de brume. Il reste bien sûr dans cet exil lointain, doux, amer, de phare, l'agence des messageries maritimes et sa femme. Brocchier, pour qui l'amitié est une vocation pareille à celle du long cours, souffre de ses amis perdus pendant la guerre. Et en 1941, les éditions Charlot Alger publieront son recueil « Liberté des mers ». Il ne le découvrira qu'après la guerre. Il sera repris en 1950 par Gallimard et complété par les écrits de Shanghai.
Ce soir, je suis vivant parmi des millions d'hommes, dans un port chinois abandonné des vaisseaux. Je voudrais que mon chant vous parvienne anonyme et touche doucement des amis inconnus. Ce soir, je suis vivant dans une cité chinoise, le ciel noir est rempli de funestes présages. J'écris à la clarté jaune d'une lampe à huile dont jadis se servait un vieux sage. Sans doute fumait-il l'opium sur sa couche, dans sa chambre fermée aux clameurs de l'Empire, au fond d'un yamen, dans une rue étroite, d'une ville murée, oubliée des soldats.
Brocchier rentre à Marseille en 1947. Jamais sa ville natale et les siennes ne lui auront autant manqué. Une nouvelle parenthèse dans cette vie de nomade. C'est un homme mûr qui aimerait maintenant devenir plus sédentaire, rester un peu à Marseille. Se déraciner a envie de s'enraciner, en Provence bien sûr. Mais le 1er janvier 1948, il est nommé agent de seconde classe avec le grade de chef de service. Il ne connaît pas encore Madagascar. Il va découvrir Diego Suarez, ville infecte, bois pourri, tôle ondulée, soleil et vent, alizé du sud-est. Et bien entendu, cette vie d'agent maritime n'est pas celle d'un homme pressé. C'est un état presque rêvé pour un écrivain, à la fois nomade et sédentaire en sursis. Aucune attache possible, des amis, des rencontres qu'il faudra bientôt abandonner, mais aussi une publicité des découvertes, des paysages, des profits et des profils, comme en offrent peu d'autres métiers. À la fin de l'année 1951, il est muté à Saïgon. Le soleil tape comme nulle part ailleurs. Et c'est à Saïgon que Brocchier fait la connaissance de Jules Roy, qui lui rendra hommage dans son voyage en Chine. Il ne cesse de photographier Saïgon. Après un séjour de 9 mois à Saïgon, il est nommé à Colombo, à Ceylan. Et bien entendu, il rapportera des photographies de Colombo, de Ceylan. Il commence à peindre. Combien de tours du monde, de traversées, de ports, d'îles, d'agences au palmarès Brocchier. Il écrira même un texte, Rivalité des îles, et conservera cette morale de l'insulaire à Marseille ou ailleurs. Et à partir de juin 1953, Brocchier va être nommé dans des agences où il a déjà travaillé. Mais cette fois comme agent de première classe, puis comme agent général. Après Colombo, il renouera donc avec Sidney Alexandrie. Sidney, encore pour la dernière fois. Et Brocchier, qui est un homme modeste, ne semble plus croire à son œuvre, espérant tout de même que des lecteurs inconnus viendront un jour à lui. Il s'éloigne, peint de plus en plus, ne croit ni dans le génie de Picasso, du Trio ou de Vlaminck, de Soutine ou de Chagall. Les géants lui ont toujours fait peur. Il se prépare à la retraite qu'il prendra le 12 décembre 1960. Il quitte sans regret un milieu maritime, alors en pleine mutation. Il passera la fin de sa vie à Marseille et à Saint-Mittre-les-Ramparts. Et, bien entendu, nous le voyons le 7 septembre 1976, il est frappé d'une congestion cérébrale alors qu'il rend visite à Gabriel Audicio, hospitalisé. Louis Brocchier meurt quelques jours après l'été caniculaire. Et j'ai le plaisir de lui rendre hommage aujourd'hui puisque je l'ai connu en 1974 à Marseille. Et c'était un ami très cher. Voici un extrait du Pilote.
Le Pilote. Le vieux Pilote est assis sous sa véranda décolorée par 30 saisons des pluies et autant de saisons chaudes, dans un petit tricot blanc et un pantalon kaki et les pieds nus posés amicalement sur le bois. Il ne fait rien. Il est assis dans un fauteuil. Il regarde la rue où ne passe personne. La rue qui va au quai, qu'il sait veuve de navire, et l'ombre d'un cocotier lui donne l'heure de midi. Sur ses yeux, qu'ont rougi les mers incandescentes, il passe une main lourde à 4 doigts noués. Le 5e est resté sur un banc de carangue, d'inhabité trop tôt, il y a tant d'années.
Thank you.
Voici un poème de Marcel Maillet.
L'aimant, en retrait de la clairière, de la profondeur du bois, sourdait cette lumière dans laquelle nul ne peut entrer. Lumière qui se déroberait à qui voudrait l'approcher et dont l'intimité ne se partage que si l'on reste à distance. Présence-absence qui montre son secret mais ne le dévoile pas. Tabernacle où peut-être un dieu s'est réfugié, à moins que ce ne soit l'ange d'une singulière visitation, réservant son compagnonnage éphémère au seul promeneur qui saura saisir l'enchantement et discrètement recueillir le mystère.
Marcel Maillet écrit « Si l'on admet que le paysage se lit comme un livre et si c'est essentiellement par la lecture, ce qui ne paraît guère contestable, que l'on forge le corpus de ses idées, alors on admettra que le caractère pédagogique et formateur du paysage. Pour moi, je ne doute pas que la lecture du Léman et des montagnes du Chablais, sommets, lacs et alpages, ont nourri ma pensée, tout autant que Montaigne, Rabelais, Pascal et tous les autres classiques ou modernes, romanciers, poètes, essayistes, historiens que j'ai rencontrés depuis que ma mère m'a appris à lire. Je ne doute pas non plus de l'influence qu'ont exercé certains paysages rencontrés au fil des ans et des voyages, paysages parcourus d'une lecture unique et brève et dont le texte était suffisamment dense pour que je m'en souvienne malgré le nombre des années. Paysages de Bretagne, de Normandie, rivages méditerranéens, les îles grecques, le plateau de Valensol, mon village natal que j'ai quitté à l'âge de 2 ans et que je n'ai revu qu'à de rares occasions.
Il est ténère pour qui je donnerai tout Rossini, tout Mozart et tout Weber, un air très vieux, languissant et funèbre, qui pour moi seul a des charmes secrets. Or, chaque fois que je viens à l'entendre, de 200 ans, mon âme rajeunit. C'est sous Louis XIII et je crois voir s'étendre un coteau vert que le couchant jaunit. Puis un château de briques à coin de pierre, aux vitres au teint de rougeâtre couleur, ceint de grands parcs avec une rivière baignant ses pieds qui coulent avec des fleurs. Puis une dame à sa haute fenêtre, blonde aux yeux noirs en ses habits anciens, que dans une autre existence peut-être j'ai déjà vu et dont je me souviens.
Tous les lundis de 11h à 12h, Traces de lumière, rediffusion tous les lundis de 20h à 21h. Vous pouvez écouter aussi l'émission par internet www.radiofmplus.org. Et bien entendu, le prochain rendez-vous de Traces de lumière sera consacré à Le temps et les saisons en poésie. Bonne semaine à toutes et à tous.